On va ouvrir la parole de Dieu et j'avais à cœur qu'on l'on puisse partager un thème et je crois que c'est ce que le Seigneur a placé sur mon cœur pour nous ce matin. Et si je devais résumer le message que Dieu m'a donné pour nous ce matin, je dirais que Dieu nous exhorte à être des hommes, des femmes qui sont sans compromis, je le dis bien, sans compromis, à l'égard du péché et même à l'égard du diable. Amen ou pas amen, frères et sœurs? J'aime bien, avant d'approfondir un thème, de toujours bien citer une définition du sujet que nous allons partager. Et ceci afin bien que l'on soit bien clair sur ce que nous voudrions partager ce matin. Alors, quand on ouvre un dictionnaire et qu'on découvre le mot compromis, parce qu'il est fait, il est question de compromis ce matin, voilà, le titre est affiché, « Soyons sans compromis ». Lorsqu'on ouvre un dictionnaire, on découvre la définition suivante. Un compromis, c'est quoi? Un compromis, c'est un arrangement dans lequel deux ou plusieurs parties en présence font des concessions mutuelles dans le but d'arriver à une entente ou bien un accord, une collaboration mutuelle. Alors le compromis est souvent le résultat d'une négociation entre les parties en présence. Ainsi, chaque partie en présence fait des concessions pour arriver à une solution commune qu'elles devront, bien sûr, conjointement, en temps et en heure, exécuter. Alors, je voudrais, avant d'aller un peu plus loin, commencer par dire que le compromis, au sens le plus large du terme, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. La vie elle-même est faite de compromis, vous êtes d'accord ou pas? On est dans une société et la vie en société nécessite des compromis. Dans la famille, il y a des compromis. Un petit exemple à l'égard de mes enfants. Quand il faut finir le repas qui est devant eux, ce n'est pas évident. Et c'est alors que j'arrive et avec le petit compromis suivant, il faut que tu termines ta soupe, hein, autrement il n'y aura pas de dessert. Ça, c'est un compromis ou non? Et l'enfant a bien compris. Je pense à ma deuxième, Johanna. Elle cligne des yeux, elle avale le repas très rapidement pour passer au dessert. Il y a eu un arrangement quelque part. Le compromis, il est partout. Il est même dans nos foyers, dans nos couples. Il faut. Je m'adresse aux célibataires. Si vous n'êtes pas prêt à faire des concessions, si vous n'êtes pas prêt à bien faire des compromis avec votre futur conjoint, ne vous mariez pas. Hein, parce que vous allez au clash. Ou non, ceux qui sont mariés, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Eh bien sûr. Regardez, un exemple parmi tant d'autres, c'est l'apôtre Paul qui, à un moment donné, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5, je pense que nous l'aurons, oui, affiché, « Ne vous privez point l'un de l'autre. » Il est fait mention, là, bien sûr, d'un couple. « Si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Ce verset est clair. Mais il est aussi fait mention à bien d'un accord, d'un arrangement. « Chérie, écoute, j'ai besoin de me recueillir, me trouver, me placer devant le Seigneur pour un certain temps. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour que je puisse m'isoler ?» Et alors, comme il y a un consentement mutuel, des concessions mutuelles qui sont faites, alors un compromis est mis en place et tout va bien. Tout compromis repose sur des accords ou des consentements mutuels. Mais voilà, et on rentre dans le vif du sujet. Ce que je voudrais nous dire, nous rappeler ce matin, nous chrétiens, c'est qu'il ne doit pas y avoir de compromis entre nous et le péché. Amen. Le vrai chrétien ne doit pas accepter de compromis avec l'ennemi de nos âmes. Et l'ennemi de nos âmes, il a un nom, hein, c'est le diable. Un verset qui est pour moi un verset clé du Nouveau Testament, c'est 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 15 et 17. On a eu l'occasion, dans le thème que nous partageons durant toute cette année, de lire et relire ce passage. Je le replace devant nos yeux ce matin. Il nous est dit, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 17, quel accord ! Il y a d'autres versions qui expriment ce passage de la manière suivante. Quelle entente ! Ou bien quel arrangement y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial est l'un des noms du diable. Ou quelle part? D'autres versions vont dire, quelle association le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport? Autrement dit, qu'y a-t-il de commun? Quelle alliance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles. Car nous sommes le temple du Dieu vivant et vrai. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. On a un Dieu qui nous invite à la séparation. C'est ni plus ni moins la définition de la sanctification, se séparer, de ne pas toucher, de sortir, de s'éloigner, de se séparer, de ne pas entrer dans toute forme de compromis. Et ça, c'est tellement important. Rendez-vous compte, quand on lit dans les évangiles, à un moment donné, le diable en personne qui vient tenter Jésus et qui lui propose un compromis. Quel est ce compromis ? Matthieu chapitre 4, versets 8 et 9. On va le relire ensemble. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Le diable a une certaine puissance. Et il a, en un instant, amené le Seigneur Jésus sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Vous voyez, il est arrivé avec un contrat, le diable. Écoute, je te donne tous ces royaumes si toi tu te prosternes et m'adores. Le compromis, il était là. Mais grâce soit rendue à Dieu, le Seigneur Jésus n'est pas entré à refuser ce compromis grotesque, maléfique, cette offre maléfique, parce que Jésus n'est pas venu faire un quelconque accord ou un quelconque arrangement avec le diable. Quand Jésus est venu ici, il est venu, ici-bas, cette terre, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et nous avons besoin d'avoir ce même état d'esprit. On n'a ni part, le diable n'a ni part ni lot avec notre vie. Hélas, nombreuses sont les personnes de ce monde qui, et vous n'êtes pas sans le savoir, ont fait des compromis avec le diable. Certains même ont fait des pactes avec le diable. Est-ce que vous le savez ça? Des pactes de sang. Quelquefois des non-retours avec le diable. Et certains ont même accepté de donner leur âme en échange d'avoir certaines richesses, certaines gloires. Et ces personnes ne s'en cachent pas. Regardez sur Internet, ils le disent ouvertement. Pas seulement dans le show business, mais un peu partout. C'est comme ça que ça marche. Parce que le prince de ce monde, c'est le diable. Et il nous invite à rentrer dans ces compromis qui sont ni plus ni moins des pièges. Et ce matin, le Seigneur veut nous inviter à pouvoir être vigilants et veiller, bien sûr, sur nos âmes. Donc le vrai chrétien ne doit pas accepter de compromis avec l'ennemi de nos âmes, tout comme Jésus a refusé ce compromis. Mais le vrai chrétien ne doit pas aussi accepter de compromis qui ferait entorse à la loi divine. On a une seule parole qui nous vient directement du ciel. Il y a un seul courrier qui est venu du ciel, c'est la Bible. Avec ses 66 livres, on a de quoi faire, toute une bibliothèque, en un seul livre, condensé. Et Dieu nous a tout dit d'avance. Et le Seigneur nous demande de ne pas accepter de compromis qui ferait entorse à la loi divine. Et l'exemple que j'ai voulu bien rappeler ce matin, toujours par rapport à ce point, c'est le compromis qu'a accepté notre ami Salomon. Qui ne connaît pas l'histoire de Salomon ? Un homme qui se distingue parmi les autres rois sur le peuple d'Israël. Un homme qui a régné près de 40 ans sur le peuple d'Israël. Cet homme a reçu quelque chose de particulier. Il avait une certaine sagesse. Une sagesse, j'ai envie de dire, exceptionnelle, surnaturelle. Mais malgré cela, cet homme, Salomon, a choisi de désobéir au commandement de Dieu. Quand on lit la Bible dans le livre de Deutéronome, Moïse avait prescrit des recommandations concernant les rois qui allaient venir plus tard pour régner sur le peuple d'Israël. Et il avait donné quelques directives que j'aimerais relire avec vous parce que c'est tellement clair. Deutéronome chapitre 17 du verset 14 à 20, on va le lire ensemble, je vous laisse le temps de le chercher. Tout s'explique. Alors c'est toujours la polémique, est-ce que Salomon finalement à la fin de sa vie a-t-il été sauvé ou a-t-il sombré dans la perdition? Dieu seul le sait. J'ai mon opinion. Je pense qu'il a eu cette sagesse pour se tourner vers Dieu et invoquer la grâce de Dieu. Toujours est-il, cet homme n'a pas pris en compte ce qui était demandé au roi de l'époque de pouvoir accomplir. Regardez ce qu'il écrit. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas et que tu y auras établi ta demeure et que tu diras « Je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent », Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. Retenez bien tout ça. Qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Le chemin qui ramène à l'Égypte, le chemin de la servitude, le chemin de la souffrance. Qu'il n'y ait pas un grand nombre, toujours, par rapport au roi, qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne se fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Frères et sœurs, ce que Dieu demandait à Salomon était très clair. Vous êtes d'accord avec moi? On ne pouvait pas faire plus simple. Et j'en suis pleinement convaincu, ce n'est pas écrit dans l'histoire de Salomon, mais je suis sûr qu'au départ de son règne, au début de son règne, cet homme, d'une manière scrupuleuse, à s'est appliqué, s'est évertué à pouvoir mettre en pratique tous les commandements qui lui étaient adressés. Mais voilà, petit à petit, compromis après compromis, Salomon s'est détourné de la loi divine. Et je l'ai dit tout à l'heure, rappelons-nous, il a vécu 40 ans. Sa déchéance n'a pas été du jour au lendemain comme cela. Mais c'est petit à petit. Vous savez, ces petits compromis avec le péché, avec le mal, et indirectement avec le diable, c'est ce qui va, à un moment donné, nous ruiner et causer notre perte. Regardez ce qu'il est dit de la vie de Salomon. 1 roi, chapitre 4, verset 26, juste des flashs de ce qu'a été la vie de Salomon. Salomon avait combien ? 40 000 crèches pour les chevaux destinées à ses chars et 12 000 cavaliers. Est-ce que vous avez un cheval avec vous? Lui, il avait 40 000. Je crois qu'ici, sur Istres, on est à peu près plus de 47 000 habitants. Donc un peu moins. Une écurie par habitant sur Istres. 40 000 crèches pour les chevaux destinés à ces chars et 12 000 cavaliers. Et regardez la subtilité. J'ai retrouvé en relisant son histoire, 1 roi, chapitre 10, versets 27 à 29. Le roi, bien sûr Salomon, rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres, aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. On a bien lu ensemble. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. Il s'est amoncelé, plein de richesses. Et regardez le verset 28, qui est très précis. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. On aurait pu dire à notre pays. Non, justement, le pays que Dieu ne voulait pas, que le peuple d'Israël retourne, c'est ce pays-là que Salomon choisit. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi les allait chercher par troupes à prix fixe. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 sicles d'argent et un cheval pour 150 sicles. Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Éthiens et pour les rois de Syrie. Je ne sais pas si ça peut être plus clair. Quand on veut désobéir, j'ai l'impression qu'on y va à pleine couture. Salomon dépêche des personnes pour aller acheter des chevaux en Égypte et non seulement il les ramène pour abonder ses écuries, 40 000 je rappelle, et en plus de ça, dans la foulée, il en amène aussi pour les ennemis d'Israël. Le roi des Éthiens et le roi de Syrie sont des ennemis d'Israël. Vous voyez comme quoi, à un moment donné, les compromis peuvent finir par nous aveugler. On ne sait plus ce que l'on fait. Et lui, puisque il a connu aussi un temps de paix, c'était certainement pour maintenir cette paix. Mais il y avait cette sorte de compromis, des cadeaux qui étaient échangés, des choses, des transactions, des arrangements qui sont faits avec l'ennemi. Oh Joël, là tu es un petit peu trop tranchant. Attention à la tolérance. Dieu n'est pas contre la tolérance, mais il y a tolérance et tolérance. Regardez encore, pour revenir à Salomon, un roi chapitre 11, les versets 1 à 4. Alors là, c'est le comble, vous connaissez. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Étiens, tous les pays qui se trouvaient au pays de Canaan, avant qu'ils cherchent à le conquérir. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles !» Et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par quoi ? Par l'amour. Par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes. 300 concubines. Je ne suis pas sûr qu'il les connaissait tous. Ça se discute, hein ? Et ces femmes, et il faut le comprendre, ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Là aussi, c'est clair, et j'en profite pour ouvrir et refermer très rapidement une parenthèse. Vous qui êtes dans cet auditoire et qui êtes encore célibataire, quel que soit votre âge, si Dieu est réellement votre père, et si, dans la question du mariage, de recherche d'un conjoint, vous vous adressez à Dieu, votre Père céleste, le bon sens, la sagesse et la confiance que vous avez en votre Dieu ne peut que vous donner à attendre de Dieu qu'il vous donne un de ses fils ou une de ses filles, ou non. Attention à ceux et celles qui s'amourachent avec des gens qui n'ont pas la même vision que nous. Vous savez, souvent les gens restent terre à terre, ils sont charnels, hein, parce qu'il a les beaux yeux, alors on s'amourache de la personne, mais on en oublie tout le reste. Parce qu'il faut qu'il y ait une connexion au niveau charnel, au niveau de la chair, au niveau du corps, mais aussi au niveau de l'âme, et mieux encore au niveau de l'esprit. Parce que comme on l'avait partagé un temps soit peu, on est avant tout un esprit qui est dans une enveloppe charnelle, et ce n'est pas l'inverse. L'homme charnel considère plus l'enveloppe que l'intérieur. Mais ce qui est le plus important, c'est cette partie immatérielle et éternelle qu'est l'esprit et l'âme. Et vous avez intérêt, dans votre union, à chercher quelqu'un qui a la même vision que vous sur le plan spirituel. De toute façon, pour donner une définition du mariage, le mariage c'est quoi ? Le mariage c'est bien regarder dans la même direction. Si vous vous regardez de ce côté-là et votre conjoint, votre futur conjoint regarde de l'autre côté, mais vous irez au clash. Quelquefois, mes entretiens, quelquefois, c'est des personnes qui, avant de connaître le Seigneur, se sont mariées avec des personnes inconverties, ou plutôt, ces mêmes personnes se sont tournées vers le Seigneur, mais leur conjoint n'est pas un converti. Et croyez-moi, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour eux. Parce que quand vous voulez vous lever le matin, le dimanche matin, eux, la veille, ils étaient en boîte de nuit. Et ils ne sont pas du tout disposés pour venir louer, adorer le Seigneur. La Bible, quand je la lis, c'est que du bon sens. Et quand Dieu nous donne des conseils, c'est jamais pour notre malheur, mais pour qu'on puisse s'épanouir. Et quelquefois, on rajoute péché sur péché. Malheur, dit Dieu, à ceux qui prennent des engagements, des alliances, sans me consulter. Et qu'il n'en soit pas ainsi. Eh bien pour nous, ce matin, je referme la parenthèse. De tels compromis avec le péché ne sont jamais sans conséquences. À cause de ces compromis, Salomon, il a eu un cœur partagé. Je ne sais pas si vous avez fait attention au travers d'un des dons spirituels. Il était question de ne pas avoir un cœur partagé. Lui qui aimait, il y a un passage, je ne l'ai pas cherché, hein, mais j'aurais pu vous le donner, où il nous est dit que Salomon était attaché au Seigneur, il aimait le Seigneur. Et ce qu'on a lu tout à l'heure dans un roi 11, on voit le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. L'amour qu'il avait pour Dieu, c'est petit à petit, compromis après compromis, c'est détourné pour être déversé. Des choses charnelles. Salomon finit par avoir un cœur partagé vis-à-vis de Dieu. Pourtant, son père, le grand roi David, l'avait prévenu. C'est extraordinaire quand on lit un petit peu les conseils du roi David. Il est là, sur son, certainement, son lit de mort. Il va appeler son fils Salomon. Il va lui dire, mais tu sais, j'ai déjà tout préparé, les matériaux pour que tu construises un temple. Un temple qui soit à la hauteur de notre Dieu. Mais il va aussi lui donner un conseil que j'aimerais replacer devant vos yeux. C'est 1 Corinthiens chapitre 28, verset 9. Parce qu'en Corinthiens, il n'y a pas de chapitre 28. Hein. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Et toi, Salomon, je vois David sur son lit se tourner vers son fils. Il savait que Salomon allait régner à sa place et lui donne comme ses précieux conseils. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Ça passe par là. Il faut d'abord connaître. Si on veut s'éloigner de toute forme de compromis, il faut d'abord connaître notre Dieu. Souvent, c'est par manque de connaissance qu'on arrive encore à tergiverser et à marcher un coup avec Dieu, un coup avec le monde, et puis être là hésitant. On a besoin de connaître ce Dieu d'amour qui nous a déjà prouvé son amour à notre égard en donnant son Fils Jésus-Christ. Connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Frères et sœurs, si nous sommes là ce matin, c'est que nous voudrions eh bien, que le Seigneur puisse nous tenir par la main et que nous allions jusqu'au bout du chemin avec lui comme on l'a chanté tout à l'heure. Si nos compromis coupables ne sont pas traités à temps, alors ils deviennent pour nous des pierres d'achoppement. Ils deviennent pour nous, à un moment donné, c'est une question de temps, des liens, des pièges, des entraves dans nos vies. Ils deviennent source de souffrance. Au départ, tout était beau, tout était merveilleux. Et puis, petit à petit, on voit l'envers de la médaille. Petit à petit, le diable, il enlève son masque. Et il nous rappelle le contrat eh bien, qu'on a passé au travers de compromis avec lui. Que Dieu nous garde cela. Lorsque nous parlons de compromis coupables, ne pensons pas forcément à des compromis grossiers, à des péchés grossiers. Salomon, c'était flagrant. Attends, il y a au total, entre ses femmes et puis ses concubines, 1000 femmes. Un peu cher. Ça, c'est grossier. Mais le compromis, quelquefois, c'est peut-être en rapport avec des choses d'apparence insignifiante. Hein. Quoi, par exemple ? La paresse. Faire des compromis avec la paresse. À Joël, c'est les vacances. Hein. Alors, la Bible, je la laisse aussi en vacances. La négligence, l'indifférence. Et on pourrait comme cela rallonger la liste. Rappelez-vous ce qu'il a été fait mention concernant les vierges folles, les 5 vierges folles. Il y a eu de l'insouciance mêlée de paresse, certainement, de négligence. Il n'avait pas assez d'huile pour accueillir l'époux. Et nous avons besoin eh bien, de refuser toute forme de compromis, même avec eh bien, ces petites choses d'apparence insignifiante. Alors je voudrais terminer et nous poser cette question à chacun d'entre nous. Comment en finir avec le compromis ? Tiens, je vous pose la question. Comment en finir avec le compromis ? Aidez-moi. Comment ? Qui a dit ? Ne plus en faire ? Ah, la palisse n'aurait pas dit mieux. C'est vrai, ne plus en faire. Mais comment ? Alors moi, comment ? Demander l'aide de Dieu, bien sûr. Réclamer le Saint-Esprit, demander l'aide de Dieu, c'est réclamer aussi l'assistance du Saint-Esprit. Disons tout d'abord que tant que nous serons sur terre, nous serons toujours confrontés à ces différents compromis, jusqu'au bout. Et d'autant plus que quelquefois, ils sont subtils, ces compromis. Ils viennent à nous sans prévenir quelquefois. On ne les distingue pas toujours et c'est là où on a justement besoin de l'aide de Dieu. Mais voyez-vous, quand on lit la Bible, Dieu, à travers sa parole, nous a laissé quelques recommandations. Je vous en cite quelques-unes, comme cela, pêle-mêle. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, mais par exemple, Paul nous invite à ne pas nous conformer au siècle présent. Dans Romains, chapitre 12, verset 2, vous connaissez ce passage. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, renouvellement de notre esprit. » Et ça ne peut se faire que par la puissance du Saint-Esprit et l'action de la parole de Dieu. Plus je vais lire la parole de Dieu, plus mon esprit va être lavé eh bien, de tout faux raisonnement. Vous savez, le monde au jour d'aujourd'hui, subtilement, nous inculque, nous insuffle sa mentalité, sa façon de penser. Et on a besoin de prier pour que justement l'esprit de monde ne vienne pas se glisser petit à petit, compromis après compromis, dans l'église. Et même aussi dans nos familles, sans s'en rendre compte. Oh mais Joël, tout le monde le fait. Oui, mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? C'est ça qui est important. Le monde nous invite à faire des concessions, quelquefois au nom de la tolérance, faire des concessions avec ce qui est contraire au commandement de Dieu. Et je nous demande, je nous invite ce matin à être incisifs comme le Seigneur, à être catégoriques. Quand le diable s'est présenté devant Jésus et lui a proposé de se prosterner devant lui, Jésus l'a repoussé de manière virulente. Arrière de moi, Satan. Et on a besoin d'avoir cette détermination, ce côté incisif, pour rappeler au diable qu'il n'a ni part ni lot avec nos vies. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous démarquer de l'esprit du monde. Nous ne devons pas nous conformer au monde. Tout n'est pas à rejeter. Mais puisqu'on a été renouvelé dans notre intelligence, nous apprenons par le Saint-Esprit à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous ne sommes pas des moutons de Panurge. Nous sommes les brebis du Seigneur. Ce n'est pas pareil. Pas parce que tout le monde le fait que nous, on va également suivre comme cela. Nous, la voix qu'on va entendre, c'est la voix du bon berger. C'est Jésus-Christ qui nous conduit. Et il nous invite à pouvoir marcher à sa suite, à pouvoir trouver en Dieu le parfait exemple à suivre. Regardez ce passage qui est merveilleux, c'est l'apôtre Paul qui le cite, Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 11. Le texte est un petit peu long, mais regardez ce qu'il est dit. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Voilà, comment refuser toute forme de compromis? Il faut marcher dans l'amour, mais pas dans n'importe quel amour, l'amour agapé, l'amour de Dieu. Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent, l'amour, ce désir toujours avoir des gains, avoir des richesses, ne soit pas même nommé parmi vous, ainsi qu'il convient à dessein. Verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. C'est cela aussi, s'éloigner de toute forme de compromis. Qu'est-ce qui sort de ta bouche, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce que tu tolères? Qu'est-ce que tu permets qui sort de ta bouche? Oh, je rigolais! Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Et pourquoi ta bouche ne serait pas consacrée, sanctifiée, uniquement pour bénir ton frère, ta sœur? Plutôt que lui envoyer des boutades? Vous savez, tout est permis, hein? Mais qu'est-ce que dit la Bible? Tout n'est pas utile. Mieux encore, tout n'édifie pas. Concentrons nos forces pour pouvoir s'appliquer, s'évertuer, à pouvoir mettre en pratique ce que Dieu nous demande. Verset 5, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, et il y en a aujourd'hui des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. On essaie de nous expliquer le pourquoi, du comment, et on tord le sens de l'écriture alors que la parole de Dieu elle est simple. N'ayez donc aucune part avec eux. Et là on voit, quelque part, on va résumer le verset 7, sortez de tous ces compromis. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, alors marchez comme des enfants de lumière. S'éloigner des compromis, c'est marcher dans l'amour, et on découvre encore, c'est marcher comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examiner ce qui est agréable au Seigneur. Voilà l'attitude qu'on doit avoir. Même de ce que le monde nous propose, on a besoin d'examiner. Tiens, est-ce que ça c'est conforme? Est-ce que ça c'est en adéquation avec la parole de Dieu? Et après on sait, puisqu'on a le Saint-Esprit au-dedans de nous. Donc il nous dit si c'est bon ou c'est pas bon. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. C'est-à-dire, n'entrez pas dans des compromis avec les ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et on a besoin de ce courage de pouvoir condamner ce qui est condamnable. De rappeler ce qui est blanc, c'est blanc, et ce qui est noir, c'est noir. On est d'accord. Autre recommandation, Je vais terminer par cela, que nous laisse cette fois-ci Moïse en personne. Un texte que j'aime beaucoup, cette fois-ci c'est dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 10, les versets 12 et 13. Ce verset, il est magnifique, ces deux versets, en l'occurrence, sont magnifiques. Et regardez ce qu'il est dit, « Maintenant Israël, il s'adresse à tout le peuple qu'il a libéré du pays d'Égypte et qu'il a amené jusqu'aux portes de Canaan. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu ? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » Comment en finir avec les compromis ? En craignant Dieu. Comment en finir avec les compromis ? En aimant et en servant l'Éternel, notre Dieu, non pas avec un cœur partagé, mais de tout notre cœur et de toute notre âme, comme il est dit au verset 12. Mais il nous est dit aussi au verset 13 de pouvoir mettre en pratique les commandements de l'Éternel, mettre en pratique la parole de Dieu. Je dis souvent, là où Dieu nous attend, là où il nous attend avec plein de bénitions dans ses mains, c'est sur le terrain. Alléluia, de la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce qu'on connaît beaucoup de choses. Internet est là, on s'enseigne, on s'instruit, on s'édifie. Mais dans la pratique, il n'y a pas beaucoup de monde. Pour ça qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Et on a besoin de nous reconnaître comme des élus ce matin et de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est comme cela qu'on réjouira le cœur du Seigneur. Il y a un exemple, bien sûr, que je voulais donner. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple négatif, malheureusement, de Salomon. Mais il y a un petit jeune homme qu'on appelle Daniel dans l'Ancien Testament. Et celui-là a bien voulu vivre une vie sans compromis. Ce jeune homme, alors qu'il était encore adolescent, la Bible nous dit dans Daniel chapitre 1, verset 8, ne le cherchez pas, mais notez-le, relisez-le, excusez-moi, chez vous. La Bible nous dit que Daniel s'est résolu de ne pas se souiller par les mets du roi. Un petit jeune homme comme cela, un adolescent. Et puis plus tard, lorsqu'il était fait mention de pouvoir n'adorer qu'un seul Dieu, c'est-à-dire le roi de Babylone, il était question pendant 30 jours que tous les autres dieux ne devaient pas être adorés. Or, pour Daniel, son Dieu, ce n'était pas le roi de Babylone, c'était son Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et ce jeune Daniel, qui avait grandi entre-temps, avait l'habitude 3 fois par jour d'ouvrir la fenêtre de sa maison et de commencer à invoquer le Seigneur. Et au péril de sa vie, il a continué sans compromis et sans crainte, avec un grand courage, de pouvoir continuer à louer et adorer son Seigneur. C'est le temps qui nous manquerait pour raconter de quelle manière Dieu l'a secouru. Il a été jeté dans la fosse aux lions et Dieu a transformé ces lions en de véritables chats. La gueule des lions ont été fermées. Vous avez compris dans quel sens j'ai dit que Dieu a transformé les lions en chats. Ils étaient tout mignons. Dieu l'a secouru parce que Dieu n'abandonne pas ceux et celles qui choisissent de vivre une vie sans compromis avec lui. Vous savez, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Tout à l'heure, je disais à un frère, vous savez, ce n'est pas l'habit qui fait le moine. On peut venir là. Et on nous connaît peut-être par nos chants, on nous connaît par notre prière, on nous connaît même par notre service. Mais il n'y a que Dieu qui connaît ses enfants. Et la Bible nous dit dans le livre, il me semble, de Timothée, il a dit, mais que celui qui se revendique comme étant enfant de Dieu, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est-à-dire que ce soit une personne sans compromis, tout comme Daniel. On a besoin de trouver exemple dans ce jeune adolescent qui a fait parler de lui et Dieu l'a par la suite élevé. Que dire en conclusion ? Je veux juste répéter que tant que nous serons cette terre, nous devrons lutter et combattre contre le compromis. Et je précise compromis coupable, parce qu'on a vu de manière plus large que le compromis est nécessaire. Mais je parle du compromis coupable. Et ce compromis coupable est là pour, quelque part, corrompre notre foi en Dieu. Mais comme nous l'avons vu ensemble, c'est notre amour pour Dieu, c'est notre amour, notre attachement pour la parole, c'est la crainte aussi que nous aurons de Dieu qui va nous permettre de pouvoir refouler toute forme de compromis qui viendrait frapper à notre porte, à la porte de notre cœur. Dieu aussi, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, que par son Esprit Saint, Dieu se propose de nous aider à pouvoir dire non quand il faut dire non. tant pis. Si peut-être quelques amis eh bien, nous tournent le dos, parce que là, ce sera révélateur. Un véritable ami, il aime en tout temps. Et quelquefois, on a besoin de faire le nettoyage, on a besoin de couper encore tous ces compromis qui pourraient encore nous alourdir et ressembler à, au contraire au Seigneur Jésus. Parce que s'il y a un exemple eh bien, en matière de compromis, c'est bel et bien le Seigneur. Il était sans compromis avec le mal et le péché. Jésus a dit à ses disciples une parole eh bien, qui prouva eh bien, qu'il était tout entier pour Dieu son Père. Dans Jean chapitre 14 et le verset 30, c'est le dernier verset que nous lirons. J'aime beaucoup ce passage. Il en dit long, il est très court. Jésus dit à ses disciples, je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince du monde, et quand il parle du prince du monde, il parle du diable. Car le prince du monde vient. Mais sachez une chose, il n'a rien en moi. Et cette parole, cette dernière parole, elle est forte. Elle doit nous interpeller, je voudrais terminer par cela. Il a dit à ses disciples, il n'a rien en moi. D'ailleurs, Jésus a été le seul eh bien, qui s'est trouvé, qui a marché sur cette terre et qui, n'a été jamais, qui a été sans péché. De sa bouche, toujours sortaient des choses bienfaisantes, des choses eh bien, qui faisaient du bien à ceux qui pouvaient eh bien, entendre. Jésus est l'exemple parfait, celui que nous voudrions ressembler. Il a dit, il n'a rien en moi, parlons du diable. Mais je nous pose cette question ce matin. Et nous, pouvons-nous en dire autant? Lorsque nous analysons notre vie, notre cœur, même nos pensées, pouvons-nous aussi déclarer, tout comme Jésus, je n'ai présentement aucun compromis avec le diable. Je n'ai pas fait de contrat avec le diable. Je n'ai pas fait d'alliance, aussi subtile, aussi insignifiante soit-elle. Eh bien, je n'ai pas fait aucune alliance avec le diable. Est-ce que nous sommes en mesure de le dire ce matin? Chacun doit répondre pour sa part. Si c'est le cas, vous êtes heureux ce matin. Parce que c'est de cette manière que l'entrée dans le paradis de Dieu vous sera favorable. Mais si ce n'était pas le cas, et si ce matin vous reconnaissiez quelque part quelques compromis eh bien, dans vos cœurs, dans vos esprits, dans vos êtres, on a besoin de se rappeler que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Vous savez, Jésus, il n'est jamais là pour nous condamner. Il est là pour nous montrer le chemin de la vie éternelle. Et il a pourvu pour que nous puissions rectifier le tir quand on en a besoin et venir vers lui, vers ce trône de grâce, et implorer eh bien, sa grâce. Seigneur, aide-moi à sortir de tous ces pièges, de tous ces compromis, de tous ces compromis avec le mal, quel qu'il soit. Et croyez-moi, le Seigneur voyant le cœur sincère ne pourra que non seulement nous pardonner, nous délivrer, mais mieux encore, il nous aidera à être saints et irréprochable, parce que Jésus est à la porte. Il revient bientôt. Vous savez, quelquefois, nous ne le réalisons pas pleinement, mais rien d'impur, vraiment rien d'impur, rien de souillé. Aucun péché ne pourra entrer dans ce lieu qui est trois fois saint, dans ce paradis que Dieu nous a préparé. Et pour cela, on a besoin de se sanctifier. On a besoin encore eh bien, de rechercher dans nos cœurs tout ce qui peut être encore des compromis et dire, mais Seigneur, eh bien, aide-moi à couper ça, aide-moi à rejeter cela, aide-moi à mettre ma vie en règle. On a besoin de mettre notre vie en règle. Même avec des années de conversion, on a besoin de mettre de l'ordre et marcher en toute vérité, dans l'amour, dans la lumière. La lumière nous parle de la vérité. Dieu veut que nous marchions, que nous soyons vrais, vrais avec lui, vrais avec les autres, vrais même avec nous-mêmes. Et si on priait le Seigneur ce matin, on va demander sa grâce. Oui, tu nous invites à être sans compromis avec le mal, avec le diable. Il a été ce tortionnaire qui, pendant des années, nous assujettissait à un esclavage, Seigneur sans nom. Mais dans ton amour, tu es venu croiser notre route et tu nous as sauvés. Et tu nous as transportés du royaume des ténèbres jusqu'à ton admirable lumière, le royaume des cieux. Et nous voudrions être dignes de cet appel, mais aussi de cette vocation, de cette élection. Et ce matin, tu nous invites à ne point retourner dans toute forme de compromis, ne point retourner en Égypte, comme l'a fait Salomon. Mais que nous soyons déterminés, résolus comme le jeune Daniel, ce petit adolescent qui s'était résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi, les mets de ce monde. Seigneur Père éternel, fais-nous grâce. et aide-nous encore, Seigneur, et encore à nous sanctifier, car tu l'as dit toi-même dans, Seigneur mon Dieu, ce livre de l'Apocalypse, que celui qui se souille encore, mais que celui qui se sanctifie encore. Seigneur, merci encore de pointer du doigt dans nos vies ce qui a besoin d'être encore purifié, sanctifié par toi. Fais-nous grâce ce matin, pardonne-nous, purifie-nous. Pardonne-nous de nos péchés. Tu vois, Seigneur, Père éternel, ô Seigneur, notre lenteur à comprendre. Ton amour, Seigneur, qui s'exprime par ces commandements que tu veux nous voir, Seigneur, mettre en pratique dans nos vies. Enlève toute forme de résistance, toute rébellion. Délivre-nous de toute forme de paresse, de négligence. Seigneur, pardon, parce que nous ne te connaissons pas. Seigneur, Père, assez, suffisamment, Seigneur, Père, pour nous attacher à toi. Et pour comprendre que, Seigneur, avec toi, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Bénis mes frères et mes sœurs. Bénis-nous encore en ce matin. Fais-nous grâce.